3e salon de Pécancourt. Je suis en compagnie de Joël Thirache, le président et aussi maire de la ville de Pécancourt. Joël, bonjour.
Oui, bonjour.
Tout a bien commencé. On est aux trois quarts là, du salon.
Oui, aux trois quarts du salon. C'est vrai qu'on pouvait avoir quelques craintes par rapport à la météo, qui était pas forcément de bon augure, mais hier, pas de pluie, aujourd'hui, pas de pluie, le ciel dégagé, un peu froid.
Enfin, la température quand même a baissé un peu quand même.
Oui, hein. La température a baissé, la température extérieure, mais pas celle qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes.
Bah oui, bien sûr, à Pécancourt surtout.
Surtout à Pécancourt, on a pas mal de très belles expositions, vous aurez l'occasion d'en parler, et des animations, ce qui fait la renommée de Pécancourt et le plaisir. Donc le public est déjà sur la piste de Sun pour la première démonstration qui a déjà dû démarrer. Voilà.
Est-ce qu'on va avoir toutes les animations aujourd'hui, même malgré la température, malgré le... Il n'y aura pas de pluie, je suppose, donc il n'y aura pas de pluie de toute façon.
A priori, il n'y aura pas de pluie.
Qu'il y a pas de pluie.
Mais la pluie est interdite à Pécancourt, donc on verra bien. Voilà. Non, mais toutes les animations sont prêtes. Je reviens de la tente du freestyle, les pilotes sont chauds, ils ont envie de démarrer très fort, donc... Aucune animation n'est prévue. Toutes les animations sont prévues. Ce qui fera plaisir au public. On a pu voir hier le festival et plein d'autres choses. Expo, le centre de la Cotève avec Charles Sacha qui nous fait le plaisir de venir. Et la première de la moto de Christophe Bio avec plein d'autres motos. Un grand plaisir pour.
Et le grand rendez-vous du concert pour cet après-midi là. Hein.
Un rendez-vous du concert, bien sûr, avec. Plus le nom.
Cachemire,
pardon. Voilà. Un grand moment aussi, mais c'est des Pécancourt, des expositions, des animations et un concert.
Alors qu'est-ce que tu trouves des machines qui sont exposées, surtout les machines de Grand Prix, hein. Si vous allez voir,
vous avez vu
c'est fabuleux. Hein.
Des très belles motos de Grand Prix, de
fabuleux,
Spencer,
hein.
la moto de Valentino Rossi,
oui, qui la 2011. Hein.
La 2011, et puis... Plein de très 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 belles motos, mais je pense que dans tous les thèmes, on a d'excellentes collections c'est le regard pour les amoureux du plaisir qu'ils ont pour eux, mais d'aller voir autre chose, c'est-à-dire de voir les motos ensemble.
Et il y a aussi
Jean-Luc que tu vas pouvoir parler.
Toute la collection de Jean-Luc Guignard aussi.
Voilà. Les mamies, comme on dit.
Et les mamies, oui, bien sûr. Eh bien, Joël, donc 34e, je pense qu'il y aura forcément un 35e. On va donner rendez-vous pour l'année prochaine.
On va donner rendez-vous, vous donnez rendez-vous. Ah. Et puis en plus, j'ai eu l'occasion hier de faire le petit concours de dessin. Donc c'est encore une belle animation. Et puis merci de nous aider aussi dans la communication et puis dans votre présence.
C'est combien de bénévoles pour le salon? J'entendais hier, il y a 280 bénévoles.
Ah non, il y a un peu plus que ça. On est entre 320 et 330 sur le site pour pouvoir accueillir nos visiteurs. Et puis... tous nos invités. Ouais,
maintenant vous êtes rodé, ça marche. C'est...
Bien sûr, on a la chance d'être rodé par rapport à l'événement, mais vous savez, c'est un petit peu une remise en cause tous les ans, par rapport ne serait-ce peut-être aux conditions climatiques, puisqu'il avait bien plu vendredi et samedi matin, il a fallu prendre les décisions et les solutions pour que l'accueil soit au mieux. C'est pas forcément évident cela, mais le salon... Je voyais, j'étais dans le public, ils étaient tous très contents de participer à cette édition.
Voilà, on rappelle le prix d'entrée, c'est 13 euros, hein, c'est pas très cher encore hein, pour,
non, c'est pas
pour
très
tout
cher.
Le spectacle ça proposé par le motoclub.
Oui, bien sûr, c'est un prix qui n'est pas bougé depuis 5 ans, donc
oui.
Il faut le faire. Et on a toujours voulu que ça puisse être populaire quand on additionne, et on a déjà eu l'occasion d'en parler. Je pense que c'est l'occasion pour les familles et les motards de venir passer une belle journée. Déjà ce matin, très tôt à la brocante.
Ah oui, il y a la brocante.
Il y avait la brocante, vers 5h30 du matin.
Il y avait déjà
du monde qui était en train de faire un petit peu tous les étapes.
Alors ça vous fait des sacrées journées quand même, alors, à Pécancourt, au salon, au motoclub.
C'est normal, on s'est entraîné depuis une quinzaine de jours, déjà depuis samedi, puisqu'on s'occupait de toute l'installation. Hein. Il y a une grande partie qui est faite, la décoration par les membres du club. Et depuis samedi, on est tous les soirs sur le site, c'est normal.
Et le matin du bonheur.
Et le matin de bonheur, et on aura un grand rendez-vous ce soir aussi pour décompresser un peu.
Voilà, très bien, merci Joël. Je te laisse.
On va continuer.
Partir, et
voilà.
Puis rendez-vous l'année prochaine.
Rendez-vous l'année prochaine, et puis je vous laisse avec vos autres auditeurs qui sont là, et vos invités surtout, et qui vont voir aussi, que je tiens à remercier de leur présence.
Merci. Musique. Pepper.
why. I'm so glad she loved me. Loved me all the time. She's my little baby. Sweet as she can be. All this love she got, it belonged to me. If you hear me howling, calling on my darling, say, ooh, ooh, ooh. Every time she kissed me, she make the lights go out. I burn it in the morning. She make me jump and shout. This bad love I got, make me laugh and cry. Makes me really know that I'm too young to die. If you hear me howling, calling on my darling, say, ooh, ooh, ooh.
Toujours en direct du 34e salon de la moto de Pécancourt. Je suis en compagnie de Jean-Luc Gagnard. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour.
On a rendez-vous tous les ans, hein, forcément, parce que tu nous fais toujours une exposition de machines toujours formidable, avec un thème cette année, donc c'est les motos de vitesse hein, du début du siècle dernier. En
fait. Début du 20e siècle, oui.
Alors, j'ai fait un tour du stand, alors on trouve encore des machines incroyables. Ce qui me paraît encore incroyable, c'est que c'est déjà au début du siècle, les machines roulaient déjà à 100, 150 km/h, mais avec des pneus, on n'oserait même pas rouler actuellement avec, parce que ça ferait peur.
Mais oui, c'était des pneus de vélo, hein. Au départ, c'était d'ailleurs des vélos sur lesquels
on mettait
des moteurs.
Alors on roulait à 150 km/h avec des pneus de vélo, en fait.
Oui.
Et pareil pour les freinages, en fait, des commandes, tout ça, la position.
Au début, il n'y avait pas beaucoup de freins parce que le but, en fait, n'était pas de freiner, était d'aller
vite.
Non,
c'était d'accélérer, bien sûr. Oui.
Et puis, les machines les plus remarquables, c'est les bord tracks quand même sur les pistes en bois qu'on voyait aux États-Unis.
Ah oui, d'accord.
On avait des Indian 4 soupapes dans les années 20 qui roulaient à 200 km/h quand même.
Hein. Ah oui, à 200 km/h, ouais. Et donc sans frein, en fait.
Sans frein, qu'un léger.
Alors c'est pareil, on regardait l'équipement des pilotes, c'est incroyable parce que tu mets des photos avec, hein, qui accompagnent les machines. Quand on regarde les photos, il n'y a pas de casque, ils n'ont pas de casque, pas de gants, pas de bottes.
Au départ, il y a des fois des.
Sans blouson, sans combine, sans rien quoi.
Ouais, ils avaient juste des casquettes ou des serre-têtes.
Des casquettes, oui. Mmh. Ça c'était très habillé quoi.
Voilà, pour avoir un aspect, mais non, c'est vrai que la protection, ils avaient souvent que des pulls verts avec la marque.
Des pulls verts et la marque, oui.
Ouais.
Alors, quelle est la machine qui est pour toi la plus belle, mais celle qui a le plus d'histoire?
La plus étonnante sur l'expo, c'est très difficile à dire parce qu'il y a quand même pas mal de pièces rares. On a des, un panache d'anglaise hein, entre les Norton Manx, les Rutes, toutes ces motos-là. Et puis il y a ses ancêtres hein, qui sont étonnants parce que, comme la plus vieille, la Bernas 1901, qui était la moto du constructeur, hein, qu'il a fait au début du XXe siècle pour faire parler un peu de lui, pour, il a participé à des compétitions à l'époque, donc on parle de sa marque.
Ouais. La Bûcher, c'est quoi ça?
Un Bûcher, oui, c'était un moteur, c'est un moteur culbuté. C'est Alcyon souvent qui montait ces, ces moteurs-là. Et c'était très performant, ça existait en bicylindre aussi, trois cylindres. Ça s'est monté en aviation. Enfin, c'est les moteurs de course du début du XXe siècle.
Et alors le clou sur le ton stand, c'est le, la voiture là.
Ah
alors,
oui.
Alors tu dis que c'est une voiture de course, mais ça sert à quand on regarde.
Oui.
C'est une... un véhicule de transport que ça n'a rien à voir avec si on fait une comparaison avec les véhicules de maintenant
bah oui
c'est pas vraiment le style course.
Oui, c'est une voiture qui a 101 ans hein, faut le remarquer quand même, c'est une Mieuxcé fabriquée à Lyon, des voitures qu'on fait le Paris-Madrid, qu'on fait les courses de côte du Mont Ventoux. Donc à cette époque là il y avait, c'était rudimentaire hein, un moteur, deux sièges baquets pour les chauffeurs, un gros réservoir d'essence. Et puis bah, ils allaient quand même à des vitesses de 140-150 km/h.
Hein. Et ça fait bien 2 tonnes cette voiture, non?
Ah non, 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 elle est autour d'une tonne.
Ah oui, quand même.
Oui, oui, oui. Assez balèze, hein, c'est très long. Il y a des roues en bois aussi, hein. Faut faire attention dans les courbes de ne pas aller trop trop vite non plus, parce que ça cassait. Et elles sont équipées avec des pneus à talons qu'on gonflait à 4 kg de pression à l'époque.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Mais écoute, Jean-Luc, merci d'être venu aujourd'hui sur le stand. Bah, on se retrouvera certainement l'année prochaine. Hein.
Oh ben, sans doute.
T'es un habitué du salon des concours. Hein.
Oui.
Je rappelle que tu as aussi un musée. Hein. On peut visiter ton musée là-bas tant que tu habites en Mayenne.
Oui, j'ai un musée en Mayenne que je fais visiter sous réservation pour les clubs de moto, de voitures, enfin tous les.
Enfin,
tous
tu fais le package, hein. Tu prévois le resto, la découverte des produits de la Mayenne.
Voilà.
Et on visite le musée.
Et voilà.
Bah, très bien, bah, Jean-Luc, merci.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
en direct du 34e salon de la moto de Pécancourt. Je suis en compagnie de Charles Graschka. Charles, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, on ne sait pas comment, si je devais encore te présenter aux auditeurs, tout le monde doit te connaître, mais peut-être pas. Alors en fait, faudrait que tu leur dises un peu ta carrière en fait dans la moto.
Carrière, c'est un grand mot, dirons-nous.
Ah, c'est toute ta vie, c'était vraiment une passion.
C'est ma vie, évidemment, puisque quand on demande à quelqu'un pourquoi vous vivez, certains disent parce que je respire.
Oui.
Et moi, quand on me dit pourquoi vous vivez, ben parce que je fais de la moto.
Voilà.
C'est tout. Mais ma carrière, dirons qu'elle a commencé en 1955 par un championnat de France sur une moto Guzzi. Elle s'est poursuivie après sur du BSA, sur du Matchless. Enfin, on pourrait faire un panégyrique des motos. J'ai pratiquement une centaine de marques dans les oreilles, dans les fesses et
dans
les yeux.
Ah ben oui, quand même.
Mais la moto, elle a évolué et puis j'ai glissé sur la moto européenne pour rester fidèle à BMW, puis ensuite à Moto Guzzi.
Voilà, et t'es aussi dans City Car aussi, hein?
Alors, le City Car, il restait en 1962, trois City Car en France. Je roulais en City Car puisque, comme j'ai 78 ans, j'ai acheté ma première voiture il y a un mois.
Ah, bah oui.
Jusqu'à présent, je ne roulais qu'en City Car.
Tout arrive.
Et tout arrive, bien sûr. Donc je roulais en City Car sur la route, j'ai trouvé normal que je sois en City Car sur les circuits. Donc j'ai pris l'affaire en main et lorsque je suis arrêté de courir, eh bien il y avait 45 City Car sur les circuits et 54 City Car pendant le Tour de France City Car que j'avais créé avec l'ami Endoel.
Très bien. Donc ça c'est l'histoire de Charles, hein, Charles Graschka, hein, l'histoire. Et aujourd'hui tu es sur le salon, tu as un stand. Et tu présentes en fait, comment dire, des accessoires de sécurité, hein, pour les pilotes.
Alors, il faut situer la fédération. Je suis à la Fédération Française de Moto, non pas en employé mais en bénévole, depuis 1955. Bon, je suis rentré à la commission technique en 1976 et devant la médiocrité des équipements. Moto, mais pas seulement vitesse, hein, la moto, l'utilisateur lambda. On voyait vraiment des vêtements qui étaient des merdes, qui étaient plus dangereux qu'utiles. Donc, par le biais de la commission technique, je suis rentré à l'AFNOR, puis à la Commission européenne de normalisation, et la Fédération française de moto ne fait pas que du sport, elle s'occupe également des utilisateurs routiers, par le biais d'une commission qui s'appelle Transport et Sécurité Routière. Et notre travail est justement de travailler auprès des organismes pour mettre des normes, pour sortir des vêtements, pour créer des protections supplémentaires. Et le rôle que j'ai là aujourd'hui, c'est bien sûr une exposition photo pour présenter les 100 ans de la fédération.
Oui, parce qu'effectivement, la FFM a 100 ans.
La FFM a 100 ans. Et c'est une vieille dame qui se porte bien. Merci pour elle. Et nous avons réuni des photos depuis les débuts des compétitions jusqu'à aujourd'hui pour montrer au public l'évolution de l'équipement du motocycliste.
Oui, et puis je recommande donc aux gens qui vont passer sur le stand de regarder les photos. Hein. C'est étonnant, hein, aussi. Hein.
Et puis, l'autre partie, c'est bien sûr la suite des contrôles techniques que je faisais pendant des années sur les circuits. C'est montrer au public comment fonctionne un casque, ce que l'on doit éviter, ce que l'on peut préconiser, des solutions d'avenir comme le gilet gonflable dont je fais des démonstrations, parce que je pense que c'est un outil de protection qui sera intéressant dans l'avenir. Et voir également avec les jeunes qui font du motocross pourquoi certains équipements sont inutiles, non pas dangereux mais inutiles. Donc il vaut mieux acheter de la moutarde et la filer au cul des flics pour les faire cavaler. Pendant ce temps-là, ils ne nous emmerdent pas. Hein, mais ce qui est évident, c'est qu'il faut donner, il faut faire, si vous voulez, une approche et une éducation. Ouais. Car le problème qui est, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements techniques sont les vêtements moto. Des vêtements techniques. Ils devraient être vendus et conseillés par des techniciens. Or, bien souvent, dans les magasins, ce sont des vendeurs et non pas des techniciens.
Ah oui, bien sûr.
Alors, j'essaye, dans la mesure du possible, au nom de la fédération, d'informer le public lorsqu'il vient sur mon stand.
très bien. Charles, on te remercie d'être passé sur le stand de Radio Campus, hein, qui qu'un coup c'est tout pâle. On va te laisser repartir parce que il y a beaucoup de monde maintenant dans le salon. Et peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine, éventuellement.
Demandez à Pécancourt,
et puis on vite. Et puis on te souhaite aussi une bonne santé. Hein.
Ça va bien, merci.
Musique.
Find a new place to dwell. It's down the end of Lonely Street at a Black Hotel. You make me so lonely. I get so lonely. It was always crowded. You still can find some room. We're broken out and lovers do cry. There's man dressed in black. They've been so long and lonely street. They haven't got a look back.
Voilà, c'est toujours en direct, c'est Kikinkout et Toupal, le magazine de la moto, en direct du 34e salon de la moto de Pécancourt, salon de la moto de Pécancourt, voilà. Et puis je suis avec Gérald, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ici sur le stand. Gérald, donc de l'amicale Spirit of Speed.
Bonjour, content d'être entendu par Radio Campus.
Merci. Alors non, j'étais bluffé par la collection de machines de course présentées par cette amicale.
Bah, si, il y en a à peu près une cinquantaine, c'est vraiment...
Il y a la 750e mode de Kenny Roberts, il y a la Suzuki, la 750 Suzuki de Marco Lucchini.
Oui,
il y a
jeunes, il y a aussi la Ducati MotoGP de Valentino Rossi.
Alors ça, c'est le clou de l'Espoo.
C'est le clou. Non, nous avons aussi, pour nous Français, la moto championne du monde qui a battu tous les Américains chez eux à Daytona par un certain Patrick Ponce, qui malheureusement est décédé l'année d'après. Donc nous avons vraiment que de la moto de très très haut.
Donc toutes ces machines n'appartiennent pas à une seule personne en fait. Hein. Apparemment c'est mondial.
Non, c'est une...
Les propriétaires sont italiens, allemands, oui, australiens.
C'est ce que j'allais dire. C'est la plus grosse association de collectionneurs de motos de course authentiques. Je certifie bien authentiques. Parce que maintenant, à l'heure où l'on en est, il y a énormément de répliques. Ça, c'est facile à faire. Donc, cette association regroupe 63 gros collectionneurs internationaux, surtout européens. Et nous avons à peu près 1 200 €. Donc ici, nous avons vraiment un tout petit assortiment de ce que l'on peut faire. Quoi.
Alors là, il y a de l'argent aujourd'hui ici à ces concours. Hein.
Je pense que ce que l'on ne regarde pas, c'est le monétaire des motos. Ce qui nous intéresse, c'est plus l'historique de la moto. Quoi.
Oui, oui, mais quand même, il faut aller une fourchette. Combien ça coûte de récupérer, acheter une 500 de temps là
Bah, disons qu'on ne va pas parler de prix. Quoi.
Alors comment ça marche? Vous faites les salons? Vous êtes exposé uniquement ou alors vous tournez sur les circuits avec?
Enfin l'hiver c'est surtout sur les salons parce qu'il n'y a pas tellement de courses. Autrement après on est un peu sur tous les circuits, France.
Ah, vous roulez avec des machines alors?
Comment?
Vous roulez avec ces machines?
Ah oui, les motos sont entretenues et roulent en France, enfin Castellet, parce Italie, Imola, Spa.
Il y a des réglages bien spécifiques pour ces machines, il faut avoir le mécanicien qui va avec, les petits réglages.
Nous avons les mécaniciens qui étaient sur les usines à l'époque, nous avons vraiment tout ce qu'il faut, les renseignements, on a tout ce qu'il faut pour entretenir. Oui.
Alors je suppose que tu as roulé sur ces fameuses 500 de temps, là, monstrueuses, on disait... Les pilotes qui ont roulé là-dessus ont toujours un peu la nostalgie, ces machines.
Oui, moi j'ai l'habitude de
rouler. C'est vraiment des brutes des...
Oui, ça a été essayé par des petits jeunes de Motojournal qui ont été très très surpris de la puissance. J'ai prêté la moto de Patrick Ponce à un gars de Motojournal qui pourtant a l'habitude de conduire des motos de 190, 200 chevaux. Et qui a été vraiment surpris par les accélérations de ces 750 de temps des années 70.
Parce que là, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, il n'y a pas d'antipatinage, il n'y a pas de quoi que ce soit. Hein.
Là, non,
c'est le pilote.
Là, c'est le pilotage, c'est-à-dire que vous accélérez un peu trop sur l'angle, la moto elle dérape et...
Ah oui, c'est par terre.
C'est un slide, c'est une clavicule ou quelque chose. Quoi.
Très bien. Et donc, cette fameuse Ducati 2011 là, de Rossi, vous tournez avec dessus ou non? Vous roulez avec?
Il y a malheureusement un contrat qui empêche de rouler pendant 5 ans avec ces motos-là. Ducati se protège énormément pour cela. Quoi.
Parce qu'apparemment, même l'essence est spécifique, il faut avoir de l'essence qui vient de l'usine.
Non, c'est pas de l'usine, c'est de l'essence qui sert plus pour les avions.
Ah, d'accord, oui. Très bien, écoute, il y a combien de machines exposées là?
Comment?
Il y a combien de machines exposées?
Là, il y a une cinquantaine de machines. On a fait un tout petit chaptel. On a surtout essayé de ramener quelques motos de la Formule 750 et la saison 1986.
Il y a le W80, c'est la 500W d'Eddie Lawson. Oui. Qui est exposé aussi également.
Oui, elle est juste à côté de la moto de Valentino Rossi.
Il y a celle de Kevin Schwantz aussi.
Il y a une de Kevin Schwantz, il y a tous les plus grands pilotes, de toute façon. Il y a du Kenny Roberts, il y a Barry Sheen, il y a Jack Finlay pour les Français.
Ouais.
Il y a tout ce personnage-là qui est représenté par leur machine.
Bah écoute, on te remercie, on va te laisser retourner au stand. Et puis bravo encore pour toutes ces machines. Hein, parce que je suis amateur de Grand Prix et... Et rien que par ça, c'est assez étonnant.
C'est nous qui vous remercions de nous laisser un peu la parole pour exprimer un peu ce que l'on ressent.
Très bien, merci.
Bonne journée, au revoir. We'll be right back.
toujours en direct du 34e salon de la moto de Pécancourt. Je suis en compagnie de Hugo Gervais.
Bonjour.
Alors Hugo, là c'est spécial. Alors là, il faut que je dise aux auditeurs d'où tu viens. Alors d'abord, tu viens du Québec.
C'est hein. ça.
Ensuite, tu es parti en Inde.
Exact.
Ensuite, tu as rencontré ta femme au Tibet.
Exact.
Voilà. Et tu as atterri à Tourcoing.
Exactement.
Voilà, c'est ça, j'ai pas... Hein. Et comme ta femme est turquoise...
Elle est lilloise.
Voilà. Voilà. Tu as décidé d'ouvrir un petit magasin de restauration.
Voilà.
Un petit atelier de restauration, on va dire, pas,
voilà.
pas un magasin, ou si magasin, éventuellement.
Donc,
comme on dit en Québec, on dit magasin, non
Atelier, on dit garage.
Garage, voilà. Ouais.
Donc on a ouvert un petit garage sans prétention sur Tourcoing. Donc j'étais là, en réalité, j'essayais de trouver du boulot en France, il n'y en avait pas, puis on s'est dit, bon, ben merde,
on ouvre un truc. Et donc en Inde, tu as roulé sur des Royal Enfield.
Exactement, j'ai roulé pendant une année.
Ouais, parce qu'au Québec, non, tu faisais la réparation voiture.
Exactement.
Et tu roulais pas en moto.
Absolument pas. Donc voilà. c'est une nouvelle passion. J'ai passé une année en Inde, et en Inde, j'ai roulé 15 000 km.
C'était un but de balade ou c'était pour travailler en Inde?
J'en avais marre.
Vous avez marre. Vous avez marre du Québec?
Entre autres.
Comment ils sont les moteurs là-bas au Québec? Ça roule beaucoup? Pas l'hiver, je suppose, parce que l'hiver est long.
Ouais, donc ça fait une saison qui est très courte, donc après, c'est la motoneige plus.
Ah, c'est la motoneige, ah bah oui.
Ah ouais, ça il y en a partout.
D'accord. Donc les restaurations que tu fais ici maintenant à Tourcoing, c'est sur quelle machine? Sur la vieille, des machines récentes, des vieilles machines?
Tout ce qui est vieux. Donc je m'intéresse seulement aux trucs qui sont vieux et qui datent d'une certaine époque. Le nouveau, ça m'intéresse à vrai
dire. Alors restauration, c'est quoi? C'est refaire un moteur complet, des peintures, des...
Donc l'atelier fait pas tout parce qu'on n'est pas équipé pour faire de la peinture, on n'est pas équipé pour faire certaines les chromages, tout ça, bien sûr, mais on fait le suivi. Donc les gens nous amènent des motos qu'ils ont trouvées sur le bon coin ou peu importe et on les rénove et aussi on a certaines motos qui,
donc cet atelier est ouvert depuis quand?
Depuis le 1er juillet de l'année dernière.
Bon, et ça marche? T'as un peu de travail?
Ah bah ouais.
T'as de travail, ouais. Bon, en plus, bon, t'es mécanicien donc automobile, donc forcément, t'as aussi des compétences donc en voiture, en moto.
Oui, hein? Effectivement, on fait aussi un peu de voiture pour les voitures anciennes. On en fait, c'est un petit pourcentage, mais on fait aussi voiture. J'ai fait une Isetta dernièrement, voilà.
Très bien, bah écoute, on peut te retrouver sur le stand, hein, ici, sur le salon, à Pécancourt. Hein.
Exactement.
Et bah, tu peux donner ton numéro de téléphone, éventuellement, ton adresse, hein, pour éventuellement...
Ouais. Vous pouvez voir sur le site de Gris Monkey, GREASE.FR ou au 06 08 64 70 64.
Merci Hugo. Voilà, on va passer avec Patrick Chavanne. Alors, Patrick, je t'entends pas dans le micro. Attends, il est pas ouvert. C'est Benoît qui l'a pas ouvert le micro. C'est parce qu'il a... Voilà.
Alors, ça marche comme
voilà
ça.
Ça marche.
Ouais, c'est bien.
Bon, Patrick, on va refaire un peu... on va aussi dire aux auditeurs qui tu es, refaire une histoire un peu de ta carrière aussi de pilote, hein, parce que tu as été 4 fois champion belge en Grand Prix.
Oui, dans les années 80, notamment. Ouais. C'est 4 années...
Tu tournais avec quelle machine?
Bon, j'ai roulé d'abord en coupe Yamaha avec les Yamaha RDLC 3,5, qui était la moto de Promosport à l'époque.
Un Promosport, oui.
Et puis, donc j'ai été champion de Belgique, puis j'ai été champion de Belgique en 500 cm3, et puis je suis repassé en 250 en championnat d'Europe en 87, et là j'ai fait 2 années de championnat d'Europe.
D'accord.
Et j'ai été champion de Belgique en 88 et 89 aussi en 250, et puis... J'ai fait quelques grands prix sans résultat très probant et fini carrière sur un accident assez grave en 89.
Ah oui.
Et puis voilà. Mais...
Donc tu as roulé sur ces fameuses motos 500 de temps là.
Oui, bien sûr. Aussi, et puis là pour le moment, on roule toujours. On a roulé jusque cette année avec Richard Rubin, qui est champion du monde d'endurance en 83. On roulait avec une Yamaha 750 de temps, une W31, la moto mythique de Saran-Éponge.
Ah oui, 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 oui.
Qui ont fait le Bol d'Or.
Oui.
Donc cette moto m'est prêtée par un collectionneur. Et
d'accord. Je suppose que tu as tourné sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Ah, mais bien sûr. C'est, moi, j'habite à 30 km.
Ah, bah,
moi
en plus.
Spa, donc,
fabuleux circuit. Le plus beau.
C'est ce que tout le monde dit. Et je crois
donc,
que
c'est vrai ou je sais pas.
Quand même, en tout cas, un des plus beaux circuits.
Ce fameux Raidillon, ça doit faire.
Voilà. Et je crois que c'est de la vie du...
Ça doit faire peur aux pilotes de remonter à...
Ah, c'est le Raidillon.
T'as la descente et puis après tu remontes là.
Voilà, c'est une sensation qu'on ne peut trouver, je pense, que sur ce virage-là. C'est une sensation assez impressionnante et quand on voit les vitesses qu'on passe là, moi je veux dire, je suis toujours impressionné de regarder les autres et on se rend pas compte quand on est sur la moto de ça. Mais c'est vraiment un circuit, je crois, qui est complet, où il y a tout pour...
D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu présentes des machines, parce que maintenant, tu fais de la restauration aussi, hein,
voilà,
également,
ouais,
hein, tu fais de la restauration comme Hugo, et tu présentes des machines, alors là, c'est une série de machines, il y a quatre machines, mais six cylindres, en fait, hein.
Oui, voilà.
La fameuse Benelli SEI, là,
voilà,
la Honda, la Kawasaki 1300.
Ouais, les six cylindres des années 70, ça a été une mode un peu, c'est-à-dire que Benelli a commencé à sortir le premier en 75, a sorti la première 7,5 six cylindres en ligne. Et puis les Japonais ont embrayé avec la Honda en 78 et la Kawa 1300 quelques mois après.
Ouais.
Et puis voilà, j'ai amené ces motos pour qui sont restaurées. Et qui sont.
Et tu t'es spécialisé dans ce type de moteur?
Non, au fait, moi je fais de la restauration de motos japonaises et italiennes des années 70 principalement. Mais je fais absolument tout. On fait beaucoup de Kawa 2 temps, par exemple, des Kawa 3 cylindres, on fait beaucoup des Kawa Z900 qui sont des motos mythiques de ces années-là, en fait. Les GT 7,5 Suzuki. Mais je fais vraiment de tout. Ça fait moins de 35 ans que je fais de la moto et que je fais de la restauration. Un peu moins, mais je suis passionné.
Là, t'en as fait un travail, tu gagnes ta vie avec la restauration.
C'est,
hein.
C'est mon boulot principal, hein. Je fais que ça. Ça fait 35 ans que je vis de la moto et que je suis passionné de moto et je crois que ça, c'est une maladie qui ne se guérit pas facilement.
Très bien, bah écoute, on va recommander aux auditeurs, hein, qui vont venir tout à l'heure cet après-midi sur le salon de passer voir tes machines, hein, parce que c'est vrai que la restauration est vraiment impeccable. Hein.
Oui,
j'ai regardé les moteurs, c'est du polissage, mais alors...
C'est des heures de boulot. Oui,
c'est que, je ne sais pas combien d'heures, mais voilà. Il doit y avoir des centaines et des centaines d'heures. Hein.
Et le plaisir, c'est quand on finit ses motos et qu'on les remet en route, et puis qu'on voit le client qui vient la chercher, ils sont comme des enfants qui attendent le Père Noël. Quoi. C'est des gosses. Voilà, c'est des jouets.
Patrick, on te remercie d'être venu.
Merci à vous.
Parler de ta passion sur le stand de campus. Et peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine.
Ben oui, j'espère bien. Ça fait 9 ans que je viens, donc il n'y a pas de raison que je revienne pas l'année prochaine.
Merci.
Merci à vous.
Musique. Oh. en direct du 34e salon de la moto de Pécancourt. Je suis avec Bernard, vice-président. Bernard.
Oui, je m'occupe un peu des relations publiques, on va dire.
Relations publiques du Golfing Club de France.
Oui, voilà. Golfing Club des Pays du Nord.
Des Pays du Nord, voilà, c'est ça.
La France est une fédération qui regroupe toutes les régions. Et chaque région a un peu son autonomie pour organiser des sorties, rencontres avec les copains.
Explique-nous un petit peu comment s'est articulé ce club, parce que je sais que c'est national, enfin, international d'ailleurs.
International. Nous, on est une fédération qui est française, qui est elle-même affiliée à une fédération européenne qui regroupe à peu près une vingtaine de pays sur toute l'Europe.
Donc vous présentez des Goldwyn, alors qui ça va du 4 cylindres, hein, toute première Goldwyn.
Les premières Goldwyn
qui sont sorties en 74.
Sorti en 1975 aux États-Unis.
75.
Et là, ici, on a un modèle de 76 qui est arrivé, c'est l'année d'arrivée en France, en Europe, de la Goldwyn.
Explique-nous un petit peu, parce que c'était au départ une 1000. Alors, après, elle est passée en 100, après 1200.
Tout à fait.
4 cylindres toujours.
4 cylindres jusqu'à 1200. Et ensuite, on est passé sur le 1500 6 cylindres. Puis le 1800 aujourd'hui, hein, la moto actuelle.
T'as eu, tous les modèles ou...
Moi j'ai eu tous les modèles.
De la 1000.
De la 1000, hein, j'ai eu ce qui est présenté là, sur notre stand, je les ai toutes eues.
T'as 1800, c'est ça?
Oui.
1800.
Donc, en passant par le Citcar, parce que...
Alors le Citcar, oui, parce que c'est une fabuleuse machine pour atteler.
Tout à fait.
Il faut reconnaître aussi que...
Et on est un club de copains, c'est familial, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants, oui.
Alors comment ça fonctionne? Vous faites des balades? Vous avez un programme, je suppose, pour 2013.
Chaque membre est un petit peu acteur du club. On demande aux gens de s'impliquer dans la vie du club, d'organiser une sortie, parfois plusieurs copains. On fait 10-12 sorties sur l'année. Donc parfois en gîte, parfois en camping.
D'accord, oui.
Il y a des rassemblements nationaux, internationaux. Donc là, on va au mois de mai, au rassemblement international organisé par le Golfing Club de France à Brignoles.
D'accord. Donc cette machine, on va dire laquelle t'as préférée en fait
Elles m'ont toutes.
T'as essayé toutes les Goldwyn.
Elles m'ont toutes marquées. Oui, on a toujours la première, oui. On a toujours un petit coin dans le cœur pour cette première Goldwyn.
Pour la première, oui. Ouais. Moi, j'en ai une aussi et je trouvais qu'elle n'avait pas trop de coupe. La 4 cylindres.
C'est déjà
un peu fade.
C'est quand même une moto qui à l'époque avait une vocation plus sportive qu'aujourd'hui, puisque moi je me souviens que cette 1000 montait à plus de 210 km/h.
L'événement majeur donc pour le Goldwyn Club, c'est quoi cette année?
Alors cette année c'est le rassemblement international de la Fédération des Goldwyn Clubs de France, qui se passe à Brignoles. Chaque année on change de région. En 2012 on l'avait organisé ici à Dunkerque. On avait eu la chance d'avoir la salle du Cursal de Dunkerque, qui est une magnifique salle.
Ouais, on m'a dit qu'il y avait du monde, beaucoup de monde.
Tout à fait. Un rassemblement en France, ça représente un millier de motos. Quoi.
Un millier de Goldwyn.
Un millier de Goldwyn.
Eh ben dis donc, ça en fait des cylindres.
Ouais.
Je suppose qu'il y a une adhésion.
Chaque membre, possesseur d'une Goldwyn de préférence, parce qu'on a aussi des membres bienfaiteurs qui sont intéressés par le club, qui peuvent adhérer aussi au club.
Il faut forcément avoir une Goldwyn.
Il faut presque forcément avoir une
Goldwyn. Posséder une machine de Goldwyn. Ouais. Et ça coûte combien alors l'adhésion?
L'adhésion ici chez nous, c'est 77 euros l'année.
D'accord.
Ce qui donne droit à des magazines. Il y a un mensuel au niveau régional, un mensuel national, plus un magazine trimestriel en couleur.
Très bien. Bah, écoute Bernard, on te remercie d'être venu
merci
sur le stand.
Pour votre accueil, hein.
Et puis je vois que comme on est juste en face, je vois que tes collègues te font signe de venir parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a une émulation sur le stand.
Il y a une certaine heure qui approche.
Donc on va te laisser aller.
Et puis on est bien entouré puisqu'on a Victory et Harley.
Et après il y a Victory, vous êtes bien entouré. Victory, Harley, Goldwyn.
Tout à fait, super.
Et Campus en plus.
Merci encore.
Musique.
Wanna play with you all night long. I don't need to hold you from everyone, as long as you stick with me. So please be mine.
Voilà, on va terminer cette émission avec Patrick Goliot, qui est vice-président du Continental Vario. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour la Miche.
Tu vas nous parler un petit peu du programme du Continental Vario, c'est-à-dire, il faut préciser que c'est du 50 cm cube. Hein.
Oui, on fait c'est un club de 50, 70, 125, 4 temps. Et bon, cette année, on va faire l'ouverture de la catégorie promo à Croix-en-Ternois le 11 et 12 mai. Et on essaie d'attirer le maximum de jeunes possible.
Alors c'est à partir de 14 ans
12 ans. 12 ans pour les productions. Vraiment le...
Il y a des catégories, il faut les un peu expliquer quand même, vite fait quand même.
Ouais, les catégories, donc c'est production, il y a les promotions vario, les vario open, donc tout est permis. Ensuite on a les boîtes de vitesse, les promotions, les boîtes open. Et on a une catégorie scooter aussi. Scooter qui marche.
Comment ça marche? Vous prêtez les machines
Non, les pilotes viennent avec leur matériel et nous on est organisateurs de course.
Vous les aidez un peu dans le...
Ah, on a tout un système avec on a le président qui lui s'occupe beaucoup de la mécanique et fait beaucoup de conseils là-dessus.
Très bien. Donnez un numéro de téléphone parce que là il nous reste quelques minutes.
Hein, ok, on va se dépêcher. Anthony
qui va nous donner une petite info.
Vous pouvez contacter le club au 06 28 04 22 79, voilà.
Alors j'ai vu qu'il y avait t'as marqué, il y a une tombola, c'est ça, non? J'ai vu ça, non? C'est pas tombola? Il n'y a rien à gagner.
C'est pas moi qui ai une tombola, quel dommage.
De toute façon, on peut retrouver aussi les infos sur le calendrier des motoclubs. Hein.
Oui, tout à fait, calendrier du club de Kikinkout et Toupal, nous sommes dedans. Et on a le Skyblog pour toute information informatique.
Très bien. Alors on va passer avec Anthony. Anthony, bonjour.
Salut la Miche.
Donc tu vas nous donner une petite info sur une belle balade qui va avoir lieu dans quelques mois.
Dans quelques semaines. Donc
semaine.
Le 14 avril. Donc c'est la deuxième édition de la ronde des 14 villages, qui s'appelle plus cette année la ronde des 14 villages, mais la ronde des motards. Donc qui est organisée par les balades de JJ. C'est une balade qui a pour but de récolter de l'argent pour l'association Bienvenue, qui construit des écoles en Afrique. Donc c'est un but humanitaire, on dira. Donc il y aura un concert avec le tribut de Statu Quo, Vincent Enco, qui est un très très bon tribut de Statu Quo, du matériel militaire exposé ancien, et puis aire de glisse, démonstration d'aéroglisseurs. Donc c'est au départ de Bailleul, de la concession Victory, et on finit sur l'aérodrome de Merville.
Très bien. Donc tu rappelles la date ?
Le 14 avril.
14 avril, très bien. Et on termine donc cette émission avec Bruno Chrétien. Bruno, bonjour.
Oui, Bruno Chrétien de Motorsport 62.
Motorsport 62, hein, qui maintenant, c'est un peu plus light ton travail, hein, si tu fais des préparations.
Oui, en fait, je refabrique surtout une moto qui est née en Angleterre il y a 10 ans, la SS Project.
Elle est superbe. Hein. Ouais, donc explique vite fait, parce qu'il nous reste deux minutes. Là.
Ouais, donc c'est une moto qui est née en Angleterre il y a 10 ans par les deux Fairbanks. Et donc j'ai participé au départ du projet pour tout ce qui était motorisation de cette moto.
Ça ressemble à une 900 SS.
Voilà, c'est vraiment la 900 SS des années 70, vraiment la Joe Bartim qu'on dit.
Voilà.
Et donc les frères Benz en Angleterre ayant abandonné le projet, moi j'ai repris le projet et maintenant on refabrique la moto et on va essayer de la redistribuer en espérant que
donc
ça marche.
Donc c'est toi qui fabrique cette machine maintenant.
Ouais, donc maintenant c'est moi qui fabrique la machine de A à Z. Le cadre est fait chez Harris en Angleterre et moi j'assemble...
Oui, parce que tu exposes un cadre, une partie cycle là déjà.
Voilà, hein. C'est un cadre Harris qui est exposé ici en même temps. Ouais.
Très bien, bah écoute, je recommande aux visiteurs du salon de venir voir cette machine parce qu'elle est très très belle et mais ça fait envie. Mais j'ai regardé le prix.
Ouais, ça fait moins envie.
Mais bon, quand on est, on ne compte pas.
C'est du fait main. Hein.
Bon, bah, écoute, moi c'est toujours super. Bah, l'émission se termine. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Hein, même heure, même endroit, sur le 106,6. Et je vous conseille de venir aujourd'hui, cet après-midi, au salon de Pécancourt. Voilà. Passez un bon dimanche, au revoir.